vers la post-réalité aux presses universitaires de France. Gérald Brunner, est-ce que c'est un singe magicien qui est à table avec nous et qui nous parle?
Ce fut quelqu'un qui était un singe magicien, c'est-à-dire moi.
Vous fûtes un singe magicien.
Très croyant.
Expliquez-nous ça.
Moi, j'étais très croyant étant adolescent. Oui. J'ai consacré mon précédent livre, d'ailleurs, Exorcisme, chez Grasset, où je raconte comment je me suis radicalisé à l'âge de 15 ans jusqu'à à peu près 25 ans et comment je me suis auto-déradicalisé, en partie grâce à la sociologie d'ailleurs, oui, qui m'a conduit justement à explorer les croyances collectives.
Oui, parce que vous étiez l'astrologie, la magie, enfin vous n'étiez pas du côté de la raison et vous y êtes revenu, voilà, effectivement.
À peu près tout ce qui était disponible comme forme de crédulité, je les ai absorbés.
Voilà. Alors, vous êtes sociologue et vous consacrez l'essentiel de vos travaux aux croyances collectives, au complotisme ou à la post-vérité. Dans votre livre, vous avancez que ce n'est plus seulement la vérité qui est attaquée, mais la réalité elle-même. Alors, le réel est-il en danger? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. L'empire des croyances, la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, l'empire de l'erreur ou encore déchéance de rationalité, les titres de vos ouvrages disent beaucoup de vos obsessions. En 2013, avec la démocratie des crédules, vous soutenez que les citoyens des sociétés démocratiques se méfient de plus en plus des politiques, des journalistes, des universitaires, des scientifiques, et vous tentez d'en analyser les raisons. Avec la profusion des moyens d'information, les faits imaginaires, inventés ou mensongers s'imposent de plus en plus.
Plus vous avez d'informations dans l'espace public, plus la probabilité de chance de trouver au moins une information qui confirme vos croyances, et on est tous pareils, on aime confirmer nos croyances, et bien cette probabilité, elle est plus grande.
En 2021, dans Apocalypse Cognitive, vous creusez le même sillon. Vous allez à l'encontre de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, qui déclarait « Le vrai n'a pas besoin d'être défendu, il se défend tout seul ». Et vous expliquez que sur les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple, les fausses informations se diffusent 6 fois plus vite que les vraies, car aucune régulation n'y est imposée.
Cette dérégulation, elle donne un avantage aux minorités croyantes, mais qui sont très motivées à faire valoir leur point de vue. De sorte que leur point de vue devient extrêmement visible, et que cette visibilité, elle est prise quelquefois par nos décideurs, quelquefois par des commentateurs, pour de la représentativité.
Votre nouveau livre, À l'assaut du réel, pousse encore plus loin la réflexion et aborde la question de l'intelligence artificielle. Vous déplorez notamment notre propension à croire ce qui correspond à nos désirs profonds au détriment de la réalité, ou encore la corruption du réel pour des raisons idéologiques ou politiques. Le rapport au réel, c'est ce qui définit la possibilité d'un espace commun, dites-vous. Il s'agit donc d'un enjeu fondamental de toute société.
Il faut bien avoir en tête qu'il y a plus de production d'informations par des agents artificiels que par des agents naturels que nous sommes.
Ouais.
Et ça, évidemment, ça corrompt les frontières entre la perception du réel et puis notre imaginaire ou ce qu'on voudrait nous faire croire.
Pourquoi parler de la post-réalité? Parce que si le réel est tordu, déformé, on ne peut plus faire société. Si on ne s'entend plus sur un socle minimal de base commun, alors il n'y a plus de société, tout est atomisé,
il n'y a plus de démocratie. On ne peut pas vivre ensemble, il ne peut même pas y avoir de politique publique rationnel si on se met pas d'accord sur les faits, sur ce qui est réel. Et de ce point de vue, sans vouloir trop l'accabler, la figure de Donald Trump, même si c'est pas lui qui a créé la situation, est particulièrement emblématique. C'est peut-être un symptôme particulièrement virulent du problème, puisque par exemple cet été, il a pas pris de vacances, semble-t-il. Il a par exemple limogé la responsable des études statistiques du travail parce qu'elle avait rendu un rapport sur des faits qui ne lui convenaient pas, ou plutôt qui ne convenaient pas à la narration qu'il voulait imposer aux Américains. Et au moment où nous parlons, il est question d'arrêter l'activité de 2 satellites qui nous renseignent sur le réchauffement climatique. En réalité, le réel se fait connaître par justement le nom qu'il oppose parfois à nos désirs. Mais si nous ne l'écoutons plus, ou si nous dotons de technologie ou d'idéologie, et souvent les deux, pour ne plus entendre ces rebuts fades, eh bien à mon avis, on va être face à une situation un peu difficile.
Vous avez prononcé un mot « désir ».
Oui.
Il y a un slogan qui remonte à 68, c'était « Je prends mes désirs pour mes réalités, car je crois à la réalité de mes désirs ». Il y a une analyse autour du désir, de la nécessité impérieuse, frénétique, fiévreuse de les satisfaire ici et maintenant, tout de suite, et ceci a quelque chose à voir avec la post-réalité.
Certainement. D'abord, le désir est nécessaire à l'humanité. Sans désir, on serait resté dans nos grottes, etc.
Ouais.
Donc, ce n'est pas une charge contre l'expression du désir, mais il se trouve que lorsqu'on désire à un certain niveau, et que ce niveau, en quelque sorte, est inatteignable, quand notre environnement nous incite à viser plus haut que le possible, ça crée forcément un écart et donc une frustration. Et il y a beaucoup de sociologues qui m'ont précédé et qui ont montré que ce type, je pense à Durkheim, je pense à Tocqueville, des grands noms, qui ont montré que cette frustration, elle pouvait se transmuer, par exemple, en courant de suicide ou même en révolte sociale, en rage collective.
Et vous dites, plus le niveau d'insatisfaction de la société est élevé, plus la tentation de tordre la réalité est importante.
Oui, c'est ça. En l'occurrence, je montre que jusque dans les années 60-70, il y avait un grand mythe, qu'on soit de droite ou de gauche, qui nous tenait collectivement, qui était l'idée que demain serait supérieur à aujourd'hui, qu'on appelle le mythe du progrès, tout simplement. Or, quand on analyse les données numériques, les citations, etc., on voit que ce mythe s'effondre bien avant l'apparition des mondes numériques. Ce qui fait que nous sommes un peu orphelins d'une aventure collective, mais il semble que nous soyons convertis à une autre type d'aventure, qui est l'aventure du moi, de moi-même. Qu'est-ce que je pourrais donc apprendre sur moi et qui aurait été perverti par mon environnement? Et cette grande aventure de soi, on le voit par le développement personnel, par la recherche obsessionnelle, et pas seulement qu'en France, de la notion de bonheur. Donc cette obsession, elle nous conduit à vouloir toujours plus d'une certaine façon, mais quand on détricote le pull, il reste que du vide.
Et c'est le présent et pas le futur. C'est le court terme et pas le long terme. C'est ce que
ça, c'est un autre symptôme de la situation, c'est que le présent est devenu vorace. Il absorbe à la fois tout le passé, parce qu'on juge le passé souvent avec des normes du présent, et par ailleurs, la plupart de nos concitoyens préféreraient vivre aujourd'hui, voire un peu avant, et c'est pas seulement en France non plus, ça c'est des résultats internationaux sur 50 pays, plutôt que dans le futur. Presque plus personne.
Vous fréquentez des vieux, Gérald Bronner, non?
C'est peut-être une question de classe d'âge.
Ah oui, c'est peut-être ça. On va évoquer avec vous, Gérald Bronner, et avec Julien, le fait qu'aux États-Unis, une affaire extrêmement troublante mobilise l'opinion publique, et pas que l'opinion publique. Une intelligence artificielle aurait poussé un adolescent au suicide.
Et tout commence le 11 avril dernier, quand Adam Rain, 16 ans, est retrouvé pendu dans sa chambre. Ses parents, bouleversés, ne comprennent pas le geste de leur fils. Ils se connectent à son compte ChatGPT et découvrent alors des conversations de plusieurs mois entre leur fils et l'IA. Leur fils qui se confie, parle de son anxiété, de son mal de vivre. « L'idée de pouvoir se suicider, écrit-il, me semble apaisante. » Réponse de ChatGPT, je vous la lis. « Beaucoup de gens qui luttent contre l'anxiété ou les idées noires trouvent du réconfort en imaginant une issue de secours. Ça peut être considéré comme un moyen de reprendre le contrôle. » Et puis, dans d'autres conversations, l'IA liste le matériel qu'il faut pour se pendre ou encore décourage l'ado de parler à sa mère de son mal-être. Et jamais ChatGPT ne mettra un terme à la conversation. Fin août, les parents ont décidé de porter plainte contre la société OpenAI. Ils accusent son intelligence artificielle d'avoir poussé leur fils à se suicider. Et tout récemment, à la suite de ce drame, OpenAI vient d'annoncer justement qu'elle allait mettre en place un mécanisme de contrôle parental pour ChatGPT. Est-ce que c'est pas ça la solution? Mieux encadrer l'accès à l'intelligence artificielle, et notamment pour les jeunes?
La question de la régulation, en particulier de l'intelligence artificielle, est centrale, parce que dans ce cas de figure, c'est paradoxalement la volonté de rendre aussi bienveillante, c'est-à-dire empathique, cette intelligence artificielle, qui fait que peu à peu, dans les échanges que l'on peut avoir avec cette intelligence, et qu'on prend de plus en plus pour des échanges avec des êtres humains, il y a une ONG qui montre que chez les ados américains, 30% d'entre eux trouvent que c'est aussi satisfaisant d'échanger avec une IA qu'avec des autres êtres humains. Donc il y a une substitution, encore une fois, de relations artificielles. Et peu à peu, l'intelligence artificielle vous donne ce que vous voulez, et même un peu plus. Elle vous devance. Par exemple, dans cette affaire tragique, le jeune homme avait posé 200 questions sur le suicide, mais l'intelligence artificielle est revenue vers lui 1275 fois avec ce thème. C'est-à-dire qu'elle a amplifié les obsessions secrètes de son cerveau.
Oui. Alors, Gérald Bronner, vous évoquez aussi la montée du différentialisme. Mais en quoi le fait de se différencier met en danger le réel?
Alors, aucun danger, si ces gens se sentent bien, très, très intéressant. Mais effectivement, vous avez raison, dans ce livre, je propose au lecteur d'aller à la rencontre de communautés très étranges.
Oui.
Alors, qui ont toutes des stratégies contre le réel un peu différentes. Certaines s'isolent, par exemple. Alors, ça, c'est un peu triste. C'est les hikikomori au Japon, par exemple, qui vivent quasiment toute leur vie dans leur chambre d'enfant. C'est une façon de contourner le réel. D'autres font de l'auto-hypnose, c'est les shifters, pour se projeter dans des mondes imaginaires, souvent Harry Potter, qui est choisi d'ailleurs. Oui. Et fun fact, comme on dit, c'est plutôt une communauté de filles, là, les shifters, contrairement aux hikikomori. Et souvent, elles choisissent des histoires d'amour dans Harry Potter, mais c'est pas avec Harry Potter. C'est avec le méchant Malfoy, je crois qu'il s'appelle, de Harry Potter. Vous voyez, ça révèle des choses intéressantes. Mais si je m'intéresse à toutes ces communautés, c'est pas du tout pour les moquer. J'essaye de construire les raisons qui les conduisent à trouver légitime le fait de remettre en question ces frontières du réel. Oui. Elles sont pas représentatives, mais comme je l'écris dans le livre, par la grimace, le visage, c'est-à-dire qu'elles me servent à comprendre, par le périmètre de leurs excès certainement, eh bien, comment on est en train de remettre en question les grandes catégories qui nous permettent de comprendre le réel.
On évoquait ChatGPT et l'intelligence artificielle il y a un instant. Sam Altman, le président d'OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, 700 millions quand même hein, d'usagers de ce chatbot conversationnel, a dit le 7 août dernier, en 2030, le curseur entre ce que l'on considère comme le réel et l'irréel se sera graduellement et irréversiblement déplacé. Ça rend pas optimiste.
Oui.
Et d'ailleurs, vous ne l'êtes pas.
J'ai pas envie d'avoir raison à ce point-là, si vous voulez.
Ouais.
Sam Altman, effectivement, c'est aussi une figure un peu grimaçante d'une perception de l'avenir, mais je pense que si, sans jouer avec l'imagination du pire, si on n'est pas attentif et qu'on ne fait pas des diagnostics relativement sévères, c'est ce qui va nous arriver peu à peu. Donc, à mon avis, la meilleure façon de se défendre, de ne pas être aliéné, c'est de comprendre notre situation et de lire des livres par exemple.
Ah, il est habile. Ceci aide à comprendre. Merci, Gérald.